Lizzie présente Pour l'amour d'Elena de Yasmina Kadra. Lu par Samuel Charles. En mémoire de Domingo. Première partie. Chapitre 1. D'après la légende rurale, c'est un certain González Ier qui, vers la fin du XIXe siècle, avait posé la première pierre de notre village. Il n'était ni roi ni empereur. Juste un vaurien qui glandouillait dans les bordels de Veracruz avant que la grâce du Seigneur ne le frappe de plein fouet. On raconte qu'il dormait au milieu de ses putains lorsque le Christ était venu lui rendre visite dans son sommeil. « Lève-toi, » lui a dit le Christ. « Lève-toi et va dire à mes sujets que j'ai reçu leurs prières et que je t'envoie les sauver. Et quand tu auras récupéré mes brebis, va dans le Chihuahua leur bâtir une bergerie. » González a marché des mois et des mois, un gourdin de pèlerin à la main, avant de jeter son dévolu sur nos terres. Il construisit une vaste demeure pour recueillir ses fidèles, qu'il baptisa en grande pompe l'enclos de la Trinité. S'auto-proclama González Ier, pape de la nouvelle révélation, et régna sans partage sur ses ouailles comme un berger sur son troupeau. Aujourd'hui, il ne reste du sanctuaire qu'une énorme bâtisse décoiffée, ouverte aux quatre vents, et une chapelle déglinguée entourée d'un muret de pierre infesté de scorpions. Pour le vieux Paco, notre village aurait dû s'appeler le cimetière des vivants, tant nos taudis ressemblaient à des tombes, et nos voisins à des fantômes. Pas un chicanier, pas un gros bras, pas un litige pour cultiver la rancune ou rendre crédible une quelconque menace. La mort elle-même nous avait pris en grippe, puisque, depuis des années, personne n'avait réussi à crever d'une glissade ou en avalant de travers un os de poulet. La cinquantaine de familles qui faisandaient au soleil semblait évoluer à la marge du temps. Depuis que j'avais ouvert les yeux, je voyais les mêmes figures tannées, les mêmes silhouettes efflanquées aux allures d'ombre chinoise. J'entendais les mêmes bruits, les mêmes voix ravagées et les mêmes jappements des chiens. Nos gens se terraient chez eux et attendaient on ne savait quoi, non pas parce qu'ils n'avaient pas où aller, mais parce qu'ils n'osaient pas se risquer ailleurs, persuadés que s'ils venaient à se hasarder sous d'autres cieux, ils perdraient leur âme, comme tous ces gamins qui s'aventurent dans les grandes villes et qu'on retrouve au matin sur les terrains vagues, les tripes à l'air et la gorge tranchée. Beaucoup de nos jeunes ont déserté l'enclos de la Trinité. Ils étaient là, à shooter dans les cailloux, et du jour au lendemain, ils ont abandonné chèvres et cochons, et se sont évanouis dans la nature. Ils ne sont jamais revenus. Les frères Rodriguez purgent des peines incompressibles à la prison fédérale de Puente Grande, dans l'état de Jalisco. Les Martinez sont morts dans le désert du Texas. Pepito n'a envoyé qu'une seule lettre à ses parents depuis qu'il a réussi à atteindre San Diego. Garcia Guzman est gardien à la prison de haute sécurité d'Altiplano. Quant à Juanito l'Albinos, les jumeaux Alexis et Alejandro, Maribel la fille de Sancho et un tas d'autres dégourdis, ils ont carrément disparu de la surface de la terre. Certaines rumeurs avancent que beaucoup d'entre eux ont été liquidés, mais la police n'a jamais retrouvé leur corps. Seul Osario, le fils de Petra la coucheuse, rentrait de temps en temps au village voir sa mère, chaque fois dans une voiture flambant neuve. Osario, c'était le rêve dans sa splendeur insolente. Un rêve tellement improbable pour nous autres, les indécis, qu'on se contentait de graviter à sa périphérie. N'empêche, quand Osario rentrait au bercail, il devenait l'attraction du jour. Il nous parlait, avec une passion grandissante, de Ciudad Juárez, où il vivait au crochet d'une riche mère de famille de 20 ans son aînée, de ses solides relations, de ses grands projets, et des acrobaties qu'il exécutait pour maintenir le cap. La trentaine bien sonnée, des tatouages plein le corps et le verbe sec. Osario était le gars dont le regard, lorsqu'il vous dévisageait, vous traversait de part en part, mettant à rude épreuve vos arrière-pensées. Il nous impressionnait. Mais il était généreux. Y a pas à dire. Il était le grand frère pour nous. Il nous payait à boire, des fois à manger. Nous prêtait des sous, et les gens du village l'aimaient bien. La nuit, autour d'un feu au cœur des ruines du temple, il nous rassemblait pour nous conter ses conquêtes féminines et ses soirées arrosées. On ne le croyait qu'à moitié. Peut-être parce qu'on le jalousait. et on se prêtait volontiers à son théâtre d'ombre. Il faut reconnaître que ces histoires nous vengeaient un peu de la nullité de notre vie de paysans. Osario écartait nos œillères et nous emmenait sur un nuage survoler des univers multicolores où les boîtes de nuit battaient leur plein. On s'imaginait dans la lumière tamisée des cabarets, à mater les splendides sirènes qui dansaient nues sur les comptoirs, ou à rouler à tombeau ouvert dans des bagnoles qui atteignent les 200 km/h au quart de tour. Dans nos petites têtes de plougs éméchés paradaient des gratte-ciel en verre étincelant, des esplanades où se bousculent des touristes venus du monde entier. Osario savait si bien nous mettre en situation qu'il nous arrivait d'entendre jusqu'aux bagarres homériques qui se déclenchaient dans les bars huppés et d'atterrir sans parachute dans des palaces où l'on célèbre chaque nuit quelque chose et où l'on ne dort jamais. « Rien à voir avec votre cimetière », nous certifiait Osario. « Là-bas, on carbure au super. Plein aux as ou sur la jante, on existe pour de vrai. C'est pas comme ici où les jours vont et viennent comme des balançoires hantées. À Juarez, tout se joue à pile ou face, et tout le monde participe. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Tu peux devenir riche en un claquement de doigts. Moi, par exemple, j'étais parti avec une toile d'araignée au fond de la poche. Maintenant, j'ai une caisse de nabab et un joli pied-à-terre avec jardin. Je roule pas encore sur l'or, mais j'y crois. J'ai des ambitions. Un jour, je m'offrirai un club branché. Un harem de putains et un carnet d'adresses blindé où seront répertoriés des stars, des hauts fonctionnaires et des flics influents. On a la radio, Osario. Lui rappelait Ramirez, mon cousin, qui avait mon âge et un caractère trempé. Et alors ?
Bah, les nouvelles qui nous parviennent de Juarez glacent le sang.
C'est-à-dire ?
Bah, tous ces cadavres de femmes qu'on découvre sur les terrains vagues. Et tous ces gosses qu'on abat pour se faire la main.
Et alors ?
Bah, tout n'est pas rose à Juarez.
De nos petits gars qui sont partis d'ici, t'es le seul à rentrer de temps en temps. On aimerait bien entendre leur version à nos petits gars, mais ils sont pas revenus. Pareil qu'on en a buté plus d'un. Ils seraient encore vivants s'ils étaient restés parmi nous.
Parce que tu crois que t'es vivant dans ce trou duc ?
T'es mort, Ramirez. T'es mort et tu le sais pas. Regarde autour de toi, bordel. Des ânes qui roupillent à longueur de journée, des poulets qui courent dans tous les sens, quelques cochons qui vadrouillent et des chèvres en train de bouffer du carton. C'est ça ton monde. Et t'y figures même pas. À Juarez, si on meurt, c'est parce qu'on a vécu. Mais ici, Ramirez, ici, quand tu seras vieux, t'auras même pas de souvenirs pour te tenir compagnie.
En tous les cas, jamais personne ne tombe malade chez nous.
A répliqué Ramirez avec fierté. L'air de nos montagnes dope jusqu'à nos vieillards. On dort tranquille. On mange sain et on coule du bronze si dur qu'on casserait la pierre avec. « Si t'as ton aise dans la merde, reste-y », a tranché Osario. C'était pas l'air vivifiant de nos montagnes qui me retenait à l'enclos de la Trinité. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fiché le camp depuis longtemps. Mais les yeux en amande d'Héléna et son joli grain de beauté sur le menton me clouaient sur place, comme un lièvre ébloui par la lumière subite d'un projecteur au beau milieu du sentier. Héléna, c'était la grâce qui rendrait tolérable n'importe quelle misère sur terre. Fille unique de Dolores, une veuve effacée qui passait ses jours à raser les murs et ses nuits à prier la Vierge en terre cuite qui ornait sa chambre, Héléna avait presque le même âge que moi. Je la dépassais à peine d'un an. Elle n'avait pas de père et pas de frère. J'étais orphelin et je n'avais pas de sœur. Quelque part, on était fait pour se rejoindre et se compléter un peu. On allait à l'école ensemble, agrippé à l'arrière de la charrette d'un voisin. Je rêvais de devenir journaliste. Elle me rêvait, moi. À l'époque, elle ne payait pas de mine. Elle était aussi sèche qu'une sauterelle et elle flottait dans sa robe usée telle une âme menue dans un suaire. Puis elle a commencé à s'épanouir comme une fleur sauvage. Et plus elle ajoutait de la chair sur ses os, plus elle avivait les fantasmes des louveteaux qui lui tournaient autour. À 12 ans, elle était devenue si belle qu'elle m'intimidait. Lorsqu'on était ensemble, je ne trouvais rien à lui dire. Elle aussi était gênée. Elle se contentait de se triturer les doigts et on restait ainsi, bête et silencieux des heures durant. C'était pour apprendre à dire les mots qui saillaient à sa beauté que je m'étais mis à dévorer les bouquins. J'en avais chapardé un tas au marché aux puces de San Cristo. Je les lisais sans trop comprendre de quoi ils retournaient, mais avec la conviction grandissante qu'à la longue, je finirais par trouver ces fameuses formules dont raffolent les filles qu'on aime.